fidèles auditeurs du studio Kalangou, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum Quotidien. Vous nous suivez à travers un réseau de 52 radios partenaires dans les 8 régions du pays. La célébration de la Journée mondiale des personnes handicapées, c'est dans quelques jours. Cette journée est commémorée chaque année depuis sa proclamation en 1992 par la résolution 47/3 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aujourd'hui, la planète compte plus de 7 milliards d'habitants et plus d'un milliard de personnes, soit environ 15% de la population mondiale, vivent avec un handicap et 80% vivent dans des pays en développement. Cette année, le thème de la Journée internationale des personnes handicapées est « Unis dans l'action pour sauver et réaliser les ODD pour, avec et par les personnes handicapées ». Aujourd'hui, nous allons discuter sur la prise en charge et l'intégration des personnes handicapées dans la société. Je suis Rafika Taher pour la modération. Autour de cette table, nous sommes en compagnie de Mme Balkis Atteni, membre du groupement des femmes soutenues par le CICR à travers son programme de réadaptation, en compagnie de M. Ibrahim Samber, kinésithérapeute au CICR, et enfin de M. Rabu Mahaman, membre de l'association des handicapés locomoteurs, également point focal de la réadaptation au niveau de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Célébrée chaque 3 décembre de par le monde, la 30e édition de la Journée internationale des personnes handicapées œuvre à la promotion des actions de sensibilisation sur les questions liées au handicap, à attirer l'attention sur les avantages d'une société inclusive et accessible à tous, notamment dans les zones de conflits armés, car le plus souvent, dans les moments de crise, les personnes en situation de vulnérabilité, telles que les personnes handicapées, sont les plus exclues et laissées pour compte. On va tout d'abord commencer par vous, M. Samber. Quelle est la mission du CICR à l'endroit de ces personnes handicapées au Niger et surtout dans les zones en conflit?
Donc, bonjour.
Bonjour.
Il faut dire que le CICR apporte son soutien aux personnes victimes de conflits armés et aux personnes en situation, victimes de situations de violence. Donc, le CICR, à travers son programme de réadaptation physique, apporte vraiment un soutien pour accompagner les personnes à recouvrer surtout leur mobilité afin de faciliter leur autonomie.
Donc, à l'endroit de ces personnes handicapées, quel est l'objectif du CICR?
Au CICR, nous nous sommes donné comme objectif vraiment d'aider ces personnes avec les aides techniques pour faciliter leur mobilité et à travers ça, accompagner ces personnes pour leur intégration sociale. Mmh. Et qui parle d'intégration sociale parle d'inclusion économique, parle également de sport. Donc, à travers l'inclusion économique, nous accompagnons ces personnes par des activités génératrices de revenus.
D'accord. Mais est-ce que vous travaillez avec des associations, peut-être, dans l'objectif de donner aux personnes handicapées la même chance d'intégration que tous?
Merci pour cette question qui est très pertinente. Comme association, nous avons l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs. Nous avons également la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Ces deux organes-là sont des partenaires clés pour accompagner les personnes à mobilité réduite à être intégrées socialement et à retrouver vraiment une participation au niveau de leur communauté.
Monsieur Rabiou, la Fédération nigérienne des personnes handicapées est un groupement de 25 organisation pour des personnes handicapées. Donnez-nous plus de précisions sur cette fédération et combien d'années d'existence avez-vous?
Merci bien Rafika. Merci de nous avoir donné cette opportunité. À la veille de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, une journée qui est d'une importance capitale pour les personnes handicapées. Pour répondre à votre question, la Fédération nigérienne des personnes handicapées, c'est une fédération fêtière de 25 organisations, comme vous venez de le dire, dont 7 organisations catégorielles. La Fédération nigérienne des personnes handicapées, de façon officielle, elle a au moins plus de 30 ans d'existence. Elle a comme mission la promotion et la défense des droits des personnes handicapées, à travers des activités de plaidoyer. Il faut aussi se dire que la Fédération nigérienne des personnes handicapées est la fédération leader au niveau de l'Afrique. Parce qu'actuellement, c'est nous qui avons la présidence du Forum africain des personnes handicapées. Et c'est nous également qui avons la deuxième présidence de l'Alliance internationale donc, des handicaps.
Quelle est votre collaboration avec le CICR?
C'est vraiment une collaboration très fructueuse. Le CICR, c'est un partenaire privilégié de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Donc, en ce sens qu'elle apporte vraiment d'énormes appuis, aussi bien financiers que techniques, permettant à la Fédération donc, de remplir ses missions.
La Fédération des personnes handicapées, lors d'une conférence de presse en décembre 2022 à Niamey sur la prise en compte des personnes handicapées dans les politiques et programmes de développement, a soumis, entre autres plaidoyers, la révision de la politique de protection sociale. Cette étape a été franchie avec l'appui et la volonté du ministère de la Protection sociale, notamment en charge de l'emploi, la politique de la révision sociale, et a été actée par le PEDES 2022-2026 au Niger qui a prévu sa relecture, processus étant déjà lancé. Vous espérez que ce plaidoyer va aussi connaître un aboutissement heureux en 2023 avec la révision du document de politique de protection sociale selon le président de la fédération en 2022. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que vous avez gain de cause?
Nous fondons espoir que toutes nos actions donc, de plaidoyer vont aboutir en 2023. Y compris l'adoption de la loi que vous venez donc d'évoquer. Quoi.
Donc, ça n'a pas encore abouti. Vous espérez
en
toujours.
En tout cas, nous espérons que ça va aboutir.
Madame Balkissa, est-ce que vous pouvez nous dire de quel handicap vous souffrez?
Bonsoir. Je souffre de l'handicap physique. Je suis une handicapée locomotrice.
Et comment est-ce que c'est venu? C'est après ou bien vous êtes né comme ça? Comment est-ce que ça vous est arrivé?
Non, je ne suis pas né comme ça. J'ai ça à l'âge de 4 ans. Et j'ai une fièvre qui m'a mis ça. Et qu'on a dit que c'est le polio. Et c'est à ce temps-là que j'ai la marche. Je ne peux plus marcher. C'est dès l'âge de 4 ans que je ne marche pas.
D'accord. Et quelle activité est-ce que vous pratiquez?
Je suis artisante. J'ai fait la couture. J'ai fait des tricotages, des artisanales.
D'accord. Et comment est-ce que vous êtes lancé dans toutes ces activités?
Quand j'ai fait l'école en classe du 5e, que j'ai abandonné l'école, et on m'a inscrit à Caritas Niger, que j'ai fait ma formation 2 ans. Après, je suis revenu dans les ateliers. Quand j'ai eu le diplôme, j'ai dit ah, il faut que j'arrive à avoir d'autres personnes handicapées pour avoir un atelier. Dans le quartier, j'ai demandé s'il y a des handicapés. J'ai eu 7 filles. C'est Pran Niger qui est venu nous former et nous a fait un groupement. Petit à petit, on a eu des financements. C'est là qu'on est en train de faire notre activité avec 15 femmes.
Monsieur Samber, le CICR est l'un des partenaires des personnes handicapées au Niger. Comment les accompagnez-vous en vue de faciliter leur prise en charge et leur inclusion sociale?
Il faut dire qu'à la clé, nous travaillons aussi avec 2 partenaires, à savoir l'hôpital national de Niamey et l'hôpital national de Zender. Et déjà à partir de ces 2 hôpitaux partenaires, nous pouvons identifier les personnes qui sont vraiment dans le besoin de se faire réadapter. Donc, nous les accompagnons avec des orthèses, les prothèses, des fauteuils roulants, en fonction vraiment de la réalité de la personne. De l'autre côté aussi, au niveau de l'ANHL, nous accompagnons ces personnes pour leur mobilité avec des tricycles. Donc, ce sont des tricycles qui sont fabriqués par ces associations pour les rendre un peu autonomes également. Donc, une fois que ces personnes sont prises en charge, donc là, une chose est d'accompagner la personne avec une aide à la mobilité. Ça n'est une autre aussi pour sa réintégration sociale. C'est à ce moment aussi que le CICR intervient pour l'inclusion économique à travers des activités génératrices de revenus, à travers également le sport. Donc la pratique du sport est un élément capital pour vraiment amener ces personnes-là à faire le deuil de leur handicap. La plupart du temps, le CICR prend en charge les personnes amputées avec la fabrication des prothèses. Donc, il n'arrive pas à faire
là,
le deuil.
C'est le service de réadaptation.
Voilà.
D'accord.
Donc, il n'arrive pas à faire le deuil de cette amputation-là. Donc, une fois qu'ils sont vraiment pris en charge côté appareillage, Donc il faut aussi qu'on les amène à vivre ensemble avec leur père pour voir un peu comment eux ils évoluent. Donc ils retrouvent en quelque sorte une famille à travers la pratique du sport. Mmh. Et les disciplines qui sont vraiment encouragées, surtout ici au Niger, c'est le basket sur fauteuil roulant. Nous avons également le volley assis, nous avons le badminton, nous avons également le lancer de javelot. Souvent aussi, les gens se retrouvent une fois dans l'année à travers un championnat national où toutes les personnes handicapées physiques des différentes régions sont appelées à se réunir, à célébrer ce championnat et à compétir dans la bonne ambiance. Ça contribue à l'épanouissement de ces personnes handicapées-là. Donc la pratique du sport.
D'accord, là c'est des services plutôt collectifs. Est-ce qu'il y a des services personnels que vous offrez aussi?
Tantôt j'avais parlé des activités génératrices de revenus. Mm-hmm. Donc une fois que dans ces centres d'appareillage-là, nous identifions des personnes, nous pouvons les accompagner avec des activités génératrices de revenus.
Est-ce qu'il y a des conditions que les personnes handicapées doivent remplir pour bénéficier, par exemple, de ce programme de réadaptation physique, que ce soit pour le confectionnement des prothèses, de formation, de suivi pour une activité génératrice de revenus? Est-ce qu'il y a des conditions que ces personnes doivent remplir ou bien tout le monde peut se lever du jour au lendemain, voilà, je vais au CICR parce que j'ai besoin de ça, et vous acceptez, vous l'accompagnez?
Au fait, par rapport à cette question d'appareillage, il faut se dire que toute personne handicapée a droit quand même à se faire appareiller. Nous, en tant que partenaire des deux hôpitaux que j'avais évoqués tantôt, nous accompagnons ces hôpitaux-là à travers vraiment la technicité, à travers également des soutiens en matériel. Donc, une fois que la personne est dans le besoin d'appareillage, elle a la possibilité d'aller vers ces hôpitaux-là pour une consultation multidisciplinaire. C'est en ce moment seulement qu'on peut identifier le besoin réel de la personne. Est-ce que cette personne a besoin d'une prothèse? Est-ce qu'elle a besoin d'une orthèse? Est-ce qu'elle a besoin d'un fauteuil roulant? Est-ce que c'est un tricycle qu'il lui faut? En ce moment-là, lorsque nous aurons identifié ce besoin-là, donc, la personne est appelée à payer le service. Donc, si elle n'a pas la capacité de payer ce service-là, il y a ce qu'on appelle, au niveau des deux hôpitaux nationaux, il y a ce qu'on appelle l'enquête sociale. Et à travers l'enquête sociale, et cette enquête sociale va permettre de déterminer le degré de vulnérabilité de la personne et quitte maintenant au CICR de prendre en charge intégralement cette personne ou bien à moitié en fonction du score que la personne aura obtenu.
Depuis la création de ce service, est-ce qu'on peut avoir un chiffre de personnes que vous avez accompagnées?
Je ne peux pas me prononcer sur le chiffre, mais ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont été prises en charge au niveau de ces deux services. Mm-hmm. Et même au niveau de la nationale avec l'accompagnement en tricycle.
Des milliers, des centaines?
Disons des milliers.
À peu près.
À peu
des
près,
milliers.
Oui.
Super.
Donc, pour vous donner un peu une idée, en moyenne, nous distribuons 4 tricycles par mois. Donc, aussi bien à Niamey qu'à Zinder, donc à Diffa, à Agadez.
Vous intervenez pratiquement dans toutes les régions?
Nous intervenons essentiellement à Tillabéri, à Diffa. Et avant, on intervenait à Agadez, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus à Agadez, même si nous accompagnons encore les personnes handicapées physiques. Mm-hmm. Donc à Zinder aussi, puisque nous avons un hôpital qui est un partenaire très important pour l'appareillage des personnes handicapées physiques. Nous avons également l'ANHL de Zinder, qui nous soutenons beaucoup à travers le renforcement de capacités et également la fourniture de tricycles et même de cannes. Voilà.
Cette année, dans le cadre de la célébration de la journée du 3 décembre, comment est-ce que vous comptez marquer cette journée, Monsieur Rabiou? On va commencer par vous. Est-ce qu'il y a des activités prévues cette année?
Il y aura des activités entrant dans le cadre de la célébration de la journée internationale donc, des personnes handicapées. Comme donc, à l'accoutumée, le CICR accompagne ces activités.
Comment?
Chaque année, par exemple, il y aura la foire nationale inclusive qui est organisée. Et cette foire est financée entièrement par le CICR. Mm-hmm. Donc la foire nationale inclusive des femmes handicapées, artisanes et couturières. Donc de l'ensemble des régions du Niger. Faire des chiffres d'affaires donc qui va leur permettre de s'insérer socialement dans la société. La deuxième activité, c'est la conférence de presse qu'on se projette d'organiser. Et cette conférence de presse va nous permettre de passer en revue l'ensemble de ce qui a été fait donc dans la réalisation des droits des personnes handicapées au Niger. Donc, et à travers non seulement le domaine de la santé, de l'éducation, les domaines économiques et...
D'accord. Madame Balkissa, quelle activité avez-vous prévue pour le dimanche prochain?
On est dans la préparation du foire des femmes.
Comment est-ce que vous intervenez, votre participation, par exemple, dans les activités qui auront lieu?
On va amener nos articles qu'on a fait, la couture. D'accord. L'exposition va commencer le 1er décembre. Ça durera une semaine.
Monsieur Samber, comment est-ce que vous préparez cette journée en collaboration avec les associations, la fédération?
Nous accompagnons financièrement cette journée pour tout ce qui est activité, tout ce qui est caravane de sensibilisation également, pour permettre vraiment à la population de prendre conscience de la place qui revient aux personnes handicapées, pour que ces personnes-là bénéficient de cette inclusion pleinement. Il faut dire en amont aussi que par rapport aux activités des groupements de femmes, assez souvent le CICR accompagne ces groupements dans le cadre de renforcement de capacités également. S'ils ont aussi, par exemple, des projets qu'elles veulent qu'on soutienne, elles nous les transmettent et on essaie de les étudier. Au besoin, on essaie de les accompagner. En D'accord. tout cas, l'accompagnement du CICR, c'est vraiment, c'est de manière continue. C'est pas ponctuel, au fait.
La même procédure aussi avec la fédération.
Oui, au fait, pour atteindre ces cibles, nous devons passer obligatoirement à travers notre partenaire clé, qui est surtout l'Association nigérienne des handicapés locomoteurs. Puisque nous, à travers notre programme, c'est surtout la réadaptation physique, les personnes qui ont un handicap physique.
Madame Balkissa, Monsieur Samber l'a dit, ils encouragent aussi les personnes handicapées et surtout les femmes à accéder aux services. De quels services est-ce que vous avez bénéficié de la part du CICR?
Notre groupement a bénéficié de formations sur les bavettes et on a construit 11 ateliers de couture pour les femmes handicapées. Et il y a des formations qu'on nous fait sur comment gérer notre atelier, comment faire. Et puis, on a des femmes qui ont eu des tricycles, des fauteuils roulants.
Et vous, personnellement?
Moi, personnellement. Oui. Moi, j'ai eu la formation. Ça nous a donné des contrats de bavette. J'ai bénéficié de ça aussi.
D'accord.
CICR est notre grand partenaire parce que quand on n'a pas eu le financement de CICR, toujours on dit comment faire. Mais le jour qu'on a eu CICR, là, alhamdoulilah, tout notre travail, ça passe bien.
Oui, on continue dans ce sens. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
Ça a changé.
Oui, quel apport est-ce que vous avez eu avec ces formations, avec ces services que vous avez reçus?
Quand on a eu les formations des bavettes, là, en ce temps-là, on n'a même pas d'argent pour faire nos travaux comme on veut. Mais quand on a vu les bavettes, on a même avoir et beaucoup de femmes qui ont dit qu'eux aussi font ce travail-là. En plus, on a eu des financements des machines que CICR nous a donné. Et nos ateliers sont bien dotés et le travail, ça va. Et ça a beaucoup changé dans notre vie. Sur l'éducation de nos enfants, même ça a changé. Avant, quand on gagne peu, on donne aux enfants, après, ça ne suffit pas. Mais maintenant, tu sais que tu vas travailler et tu gagnes beaucoup. Avant, par exemple, notre atelier, avant, on est dans un hangar qui n'est pas construit. Mais CICR nous a fait un gris pour couvrir notre atelier.
Du coup, il y a une nette amélioration. D'accord. Monsieur Rabu, concernant votre fédération, quels sont les services dont vous avez bénéficié?
On a bénéficié beaucoup, mais je peux vous donner un exemple vraiment très, très concret et d'actualité aussi. Par exemple, le CICR a accompagné la Fédération nigérienne des personnes handicapées à mener une étude donc, sur l'état des lieux de la réadaptation au Niger. Cette étude donc, a été conduite en collaboration parfaite, aussi bien techniquement que financièrement, du CICR. En plus, le CICR accompagne aussi, toujours dans ces processus, le processus d'élaboration de la stratégie nationale donc en matière de réadaptation, qui est une exigence de l'OMS. Donc, conformément à la stratégie 2030 de l'OMS, avant même d'aller à l'étude, le CICR, donc en collaboration avec la FNPH, qui ont fait un plaidoyer pour amener le Niger à s'aligner à la stratégie 2030 de l'OMS, donc en matière de réadaptation. Après avoir s'aligné, donc maintenant, CICR, toujours en collaboration avec la FNPH, ont fait un plaidoyer auprès du ministère de la Santé pour faire une étude sur l'état des lieux de la réadaptation au Niger. Cette étude a été faite, donc un comité de cadrage donc, a été mis en place par le ministère de la Santé publique qui a supervisé donc, cette étude-là qui a été conduite par une équipe de consultance. Donc après avoir fait l'étude, CICR, toujours donc, dans son accompagnement, a accompagné donc, la FNPH à organiser un atelier pour valider donc, cette étude et transmettre donc les documents de façon officielle au ministère de la Santé. Mm-hmm. Donc actuellement, nous sommes en train de travailler en collaboration avec le CICR pour déclencher donc le processus d'élaboration de la stratégie nationale en matière de réadaptation au Niger.
Merci pour ces précisions, monsieur Rabiou. Monsieur Samber, est-ce que vous avez un rôle parlant de l'éducation pour garantir aux personnes handicapées l'égalité d'accès à une éducation de qualité?
Nous faisons des actions ponctuelles, c'est-à-dire que nous identifions des enfants vulnérables, handicapés physiques, avec qui nous accompagnons avec ce qu'on appelle un kit scolaire. Donc, on les amène à pouvoir bénéficier d'une certaine éducation, leur scolarisation, et on les accompagne pour tout ce qui concerne les frais de transport pour aller à l'école, pour tout ce qui est également l'assistance alimentaire également. Mais avant, nous prenons soin vraiment de créer les conditions pour que ces enfants-là puissent bénéficier, par exemple, des tricycles, si c'est les tricycles qui sont adaptés pour l'enfant pour pouvoir aller à l'école. Mm-hmm. Donc, nous avons un certain nombre d'enfants que nous accompagnons pour leur scolarisation.
D'accord. Avec les autorités nigériennes, vous avez inauguré le 12 septembre 2012 le centre d'appareillage orthopédique de l'hôpital national de Niamey. À ce jour, 10 ans après, que peut-on dire sur la fonctionnalité de ce centre et est-ce que vous continuez à les suivre ou bien à les accompagner?
Permettez-moi de faire un petit rappel par rapport aux axes stratégiques de notre programme. Le programme de réadaptation physique au niveau du CICR. C'est-à-dire que parmi ces axes, il faut compter l'accès. L'accès à ces services de réadaptation. En dehors de l'accès, nous avons la qualité. Donc nous veillons à ce que ces appareils qui sont fournis à ces bénéficiaires soient des appareils de qualité. Donc de l'autre côté, nous avons la pérennité, pour revenir un peu à votre question. Donc nous essayons vraiment de créer des conditions pour que même quand le CICR se retire, il y a la possibilité de continuer ces services-là. Mmh. Et là, nous intervenons au niveau du politique pour voir comment on peut créer ces conditions, notamment à travers ces stratégies de réadaptation-là. Donc, nous faisons également des plaidoyers. Nous formons également le personnel pour que vraiment ils puissent continuer le service. Donc, nous octroyons des bourses à des étudiants pour aller se faire former, pour revenir et servir un peu ces populations bénéficiaires-là. Et chaque année, nous accompagnons la FINCHAP également à la pratique du sport, voilà, pour les personnes handicapées physiques.
Monsieur Rabiou, avec la création de ce centre, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque ou bien est-ce qu'il vous a apporté un plus?
Centre de réadaptation.
Oui, de réadaptation physique.
Et vous savez,
en 2012.
Oui, c'est-à-dire que vous savez, les besoins en réadaptation, c'est vraiment un besoin très, très important pour les personnes handicapées. Au Niger, nous n'avons que des centres de réadaptation qui sont soutenus par les CICR. Mm-hmm. Donc, les centres des Zander et les centres de Niamey. Au Niger, donc, la population des personnes handicapées a 80% vivent dans les milieux ruraux. Donc pour bénéficier des services de réadaptation, donc il faut qu'elles se déplacent pour venir au niveau de ces deux centres-là pour avoir donc accès aux services de réadaptation. L'un des problèmes auxquels les personnes handicapées sont confrontées, c'est le problème de la mobilité. Donc si on peut avoir des centres un peu plus proches d'elles, donc ça va leur faciliter en tout cas l'accès.
D'accord. Mmh. Avant d'arriver à la création d'autres centres, comme vous le suggérez, dans ces centres, ces deux centres déjà existants, qu'est-ce qui manque selon vous pour plus d'épanouissement des personnes qui le fréquentent?
Voilà, c'est surtout la formation des prestataires de services en matière de réadaptation en ce qui concerne la prise en charge des personnes handicapées. Parce que la prise en charge des personnes handicapées, c'est vraiment une prise en charge particulière. Il faut que la personne soit formée, puisque les besoins ne s'évaluent pas.
J'aimerais aussi rebondir un peu sur le propos de mon collègue Rabiot. Donc, par rapport à l'accès et par rapport à la formation également. Pour que ces personnes handicapées physiques aient accès à ces deux centres, nous travaillons avec l'ANHL au niveau des régions pour qu'ils puissent identifier des personnes ayant besoin de ces services d'appareillage et nous prenons en charge ces référencements-là. Donc, on fait déplacer les personnes handicapées-là des régions vers les centres d'appareillage pour une question d'accès. Maintenant, par rapport à la formation, il faut dire que nous accompagnons les associations des kinésithérapeutes du Niger dans tout ce qui est qualité des prestations. Nous accompagnons également l'association nigérienne des professionnels de l'appareillage orthopédique en PAO pour la formation technique, pour que vraiment les services donnés au niveau des centres puissent être des services de qualité. Voilà.
Parlant de cette convention relative aux droits des personnes handicapées, et adoptée en 2006, voilà, est-ce que elle a fait progresser les droits et le bien-être des personnes handicapées?
Dans son esprit et dans sa lettre, la convention relative aux droits des personnes handicapées avait progressé. Maintenant, le problème, c'est dans l'application. C'est-à-dire que l'application, elle est progressive. Si aujourd'hui, le Niger décide d'appliquer tous les droits des personnes handicapées conformément à leur engagement pris, conformément donc à l'esprit et à la lettre de la CDPH, donc les personnes handicapées n'auront besoin de rien. Parce que tout a été prévu par la CDPH.
À quel niveau pensez-vous que cette convention-là a été appliquée aujourd'hui?
Bon, en tout cas, on ne peut apprécier les niveaux, mais quand même des efforts ont été faits dans l'application donc, de la CDPH. Des efforts vraiment remarquables ont été faits. Et d'ailleurs, pour donner suite donc, à toutes les dispositions de la CDPH, le Niger donc, a adopté la loi 2019-062 donc, portant les principes fondamentaux de l'insertion des personnes handicapées. Donc, pour matérialiser toutes les dispositions. Donc, c'est déjà ça aussi, déjà un pas en avant.
Madame Balkissa, est-ce que vous rencontrez des problèmes dans l'exercice de vos activités?
Des fois, on rencontre des problèmes sur l'écoulement de nos produits. Si on a fait les produits, ça dure, on n'a pas d'écoulement. Ou avoir des fois, on fait une semaine, on est en train d'attendre, on n'a rien. C'est notre grand problème. Et le problème aussi, on n'a pas, par exemple, des matériels qu'on va avoir pour faire les produits, pour qu'on aura des coulements. Parce que les gens partent ailleurs pour acheter les articles même qu'on fait ici. Peut-être parce qu'ils ont des matériels qu'ils ont fait, ou bien on déteste notre produit, nous, on ne sait pas. Mais les produits qu'on fait, est meilleur que ce qu'on fait ailleurs où on va venir acheter.
Monsieur Rabiot, malgré ces avancées que vous avez soulignées, est-ce qu'il y a des défis quand même qui persistent? Selon vous, qu'est-ce que l'État et ses partenaires peuvent faire pour venir à bout de ces défis?
Beaucoup de défis restent à relever, notamment dans les domaines de l'éducation. Des enfants handicapés, c'est tout un processus. Donc ça demande beaucoup de moyens, Ça demande beaucoup d'engagement, aussi bien de la part de l'État que de ses partenaires. Parce que l'éducation, quand on parle de l'éducation inclusive, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, et ça nécessite beaucoup de moyens. Ce qui fait défaut et ce qui fait en sorte que beaucoup des enfants handicapés aussi aujourd'hui se trouvent hors de l'école. Parce que pour promouvoir une éducation inclusive de qualité des enfants handicapés, il faut un accompagnement en termes d'aide technique, mais aussi en termes de moyens pédagogiques adaptés. Ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos écoles. Donc, ça limite la participation effective des enfants handicapés à l'école. Alors que c'est un droit fondamental pour eux.
Donc, qu'est-ce que vous suggérez?
Beaucoup d'efforts ont été faits, mais redoubler d'efforts pour que la question de l'éducation inclusive des enfants handicapés soit vraiment une réalité au Niger.
La mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030 et d'autres cadres de développement international tels que la charte sur l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire. Quelle est votre intervention sur ce point?
Il faut noter que au niveau du CICR, l'ensemble de nos actions que nous menons, nous essayons d'être vraiment inclusifs. À cet effet, nous avons un programme qui est dédié à la redevabilité, qu'on appelle AAP. Donc, c'est un programme qui veille à ce que tout ce que nous menons comme action, que vraiment nous respections cette question de redevabilité. Mm-hmm. Donc, on peut dire qu'au CICR, vraiment, l'inclusion est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et que nous essayons de mettre au cœur de nos activités de tous les jours.
D'accord. Les conclusions préliminaires du prochain rapport des Nations Unies sur le handicap et le développement 2023 indiquent que le monde est encore plus en retard dans la réalisation de plusieurs ODD concernant les personnes handicapées. Pourquoi selon vous? Pourquoi ce retard? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Que faudra-t-il faire pour un changement?
C'est-à-dire que c'est une question très très complexe, mais moi je dis que tout tourne autour de l'application donc des engagements souscrit par les États.
Mm-hmm.
C'est cette application-là qui fait vraiment défaut. Si toutes les dispositions qui sont dans la CDPA sont appliquées, donc je pense que la question de l'attente des ODD sera vraiment une réalité. Elle sera vraiment effective. C'est vraiment de façon progressive, vraiment de façon un peu à un rythme vraiment lent que les États essayent d'appliquer donc les dispositions de la CDPH, quoi, les droits des personnes handicapées.
D'accord. Monsieur Samber, quel est le rôle, par exemple, joué par le CICR, la fédération, les associations pour atteindre l'inclusion des personnes vivant avec un handicap? Parce qu'en 2023, les 1,3 milliard de personnes dans le monde qui vivent avec une situation de handicap important continuent de faire face à divers obstacles dans leur inclusion.
Et nous allons encore revenir à cette question de la stratégie 2030 de l'OMS.
Mm-hmm.
Il faut se dire que déjà, pour arriver à cette étude, on a fait un travail en amont avec plusieurs partenaires intervenant chez les personnes handicapées. Donc, le fruit de ce travail, ça a été vraiment le rapport sur l'état des lieux de la réadaptation au Niger. Et donc, c'est partant de ces résultats qu'on pourra vraiment élaborer une stratégie qui puisse prendre en compte toutes les préoccupations des personnes handicapées en ce qui concerne leur inclusion également. Donc, il faut se dire que, quelque part, la question de la réadaptation, elle est complexe. Donc, il faut vraiment des orientations. Déjà, au niveau du ministère, la question a été prise à bras le corps, notamment à travers la conduite de cette étude. Et pour arriver vraiment à mettre en place une stratégie digne de ce nom, qui puisse vraiment prendre en compte les besoins qui sont vraiment énormes de ces personnes handicapées-là.
Monsieur Rabiou, les mécanismes de collecte de données conçus par et avec les personnes vivant avec un handicap et leurs organisations respectives, y compris des données désagrégées sur les types de handicap, par exemple l'âge et le genre, sont indispensables mais actuellement manquants. Pourquoi ? Est-ce que vous n'êtes pas associé dans cette collecte de données ?
Tout à fait.
D'accord.
Tous les problèmes se situent à ces niveaux. En tout cas, au début, bien sûr, au début, les personnes handicapées n'étaient pas impliquées dans la collecte des données. Donc, en ce qui concerne la population des personnes handicapées. Mais, en tout cas, lors du recensement de 2012, la FNFH a participé vraiment de façon active donc au recensement, ce qui a amélioré le pourcentage de la population des personnes handicapées à 4,2%. Avec également les recensements qu'on aurait dû organiser donc cette année, donc mais compte tenu des événements qui sont en cours, les activités sont suspendues. La Fédération nigérienne des personnes handicapées a été impliquée aussi dans tous les processus. Donc, en tout cas, l'UNES a impliqué la FNPH dans tous les processus.
Donc, aujourd'hui, vous êtes impliqué
aujourd'hui,
dans la collecte des données.
On est impliqué. La preuve, même dans les questionnaires qui a été prévu pour les recherches, toutes les catégories des handicaps ont été prises en compte. Et ça, c'est sur la base de plaidoyer menée par la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Voilà.
D'accord. Madame Balkissa, la dernière question pour vous. Quel appel est-ce que vous lancez aux personnes handicapées pour leur inclusion sociale, pour leur autonomie? Qu'est-ce que vous leur dites?
L'appel que je lance aux personnes handicapées de venir faire leur activité. D'aller mendier, c'est pas bon. Et avoir son métier et chercher tout. Et il faut que les personnes handicapées, qu'ils viennent faire dans les associations pour avoir des nouvelles, pour avoir cherché leurs droits. S'ils ne sont pas parmi les personnes handicapées, d'autres ne connaissent même pas leurs droits. Donc, ce que je vais faire appel, il faut qu'ils viennent chercher leurs droits et bien faire leur travail. Aller demander, c'est pas bon.
Et que suggérez-vous au CICR?
Ce que je suggère au CICR, d'augmenter leur aide qu'on nous fait. Ils ont fait leur mieux pour nous, on veut qu'on augmente aussi. Il y a d'autres qui n'ont pas eu ce que nous, on a eu. Et on veut qu'eux aussi bénéficient de ce qu'on a bénéficié de CSR.
Donc, vous d'autres leur conseillez d'aller plus vers la population, oui. Prendre acte de leurs besoins,
oui.
Et de faire plus dans leur financement.
Oui, c'est
d'accord.
Ça.
Monsieur Rabiou, quelle campagne est-ce que vous menez enfin pour que les personnes handicapées jouissent pleinement de leurs droits en tant qu'humains?
Donc, merci pour cette question pertinente. Il faut dire que nous, principalement au niveau du programme de réadaptation physique, c'est vraiment d'amener les gens à profiter pleinement des services de réadaptation. Et pour cela, déjà, par le passé, nous avons conduit une étude qui nous a permis de relever que les femmes fréquentent moins ces services-là. Et donc, à cet effet, nous avons mis en place, avec la collaboration de la FNPH, un projet pour amener vraiment à une fréquentation plus élevée de ces femmes handicapées physiques-là. Et Dieu merci, on a vraiment trouvé qu'il y a eu une fréquentation de plus en plus élevée de ces femmes au niveau des services. Pour arriver à ce résultat, il y a eu vraiment des campagnes, des caravanes de sensibilisation, des théâtres forums qui ont été faits au niveau des quartiers périphériques. Et ce projet a concerné aussi bien Niamey que Zender. Et Dieu merci, les résultats sont palpables, sont tangibles aujourd'hui. Et nous allons continuer encore à sensibiliser, à mener des actions de plaidoyer, même au niveau de l'État également, avec la participation des associations des personnes handicapées pour que vraiment les personnes handicapées puissent jouir pleinement de leurs droits.
D'accord. Monsieur Rabiou, comment pensez-vous qu'il faudra améliorer l'autonomie et l'inclusion de des personnes handicapées pour faciliter leur vie? Que pensez-vous sur le point importance de l'intégration des personnes handicapées dans la société et comment contribuez-vous à une meilleure inclusion?
La question de l'inclusion des personnes handicapées au sein de la société, c'est une question fondamentale.
Mmh.
Elle est très, très fondamentale parce que tout tourne autour de leur intégration au sein de la population. Donc, ce que vraiment je voudrais dire à ce sujet, que l'handicap ne doit pas être assimilé à l'incapacité. Dans la société ou bien dans nos communautés, beaucoup pensent que être handicapé, c'est vraiment être incapable. Donc, et ça, c'est vraiment de façon abusive que les gens ont cette perception. Donc, tous ceux qui, même les personnes handicapées pensent que être handicapé, c'est une fatalité. Non, l'handicap n'est rien d'autre que ça fait partie de la diversité humaine. C'est une diversité humaine. De la même façon qu'il y a une personne blanche, il y a une personne noire.
Mm-hmm.
De la même façon qu'il y a une personne courte, il y a une personne longue. De cette même façon, il y a des personnes handicapées et il y a des personnes non handicapées. Donc la société doit accepter cette réalité-là.
Mm-hmm.
Doit accepter que les personnes handicapées sont une couche à part entière de la population. Elles ont des droits. Donc, et c'est ce qui constitue surtout un frein à leur intégration au sein de la société, au sein des communautés, ce sont les barrières instituées par les communautés. En réalité, ce n'est pas l'handicap qui freine la participation des personnes handicapées au sein de la communauté, mais plutôt les barrières instituées par les communautés. C'est ça qui limite leur participation. Et c'est à ce niveau que nous menons des plaidoyers pour que ces barrières-là se brisent et permettre effectivement l'inclusion des personnes handicapées à tous les niveaux de la vie au sein de la société.
D'accord. Et quel est votre dernier mot, M. Rabiou?
En tout cas, notre dernier mot, c'est vraiment l'appel que je devrais lancer à tous les partenaires de la fédération et des autres associations de personnes handicapées. Donc, à commencer bien sûr par notre partenaire privilégié, donc le CICR, de multiplier les efforts pour faire de l'inclusion des personnes handicapées une réalité donc au Niger.
D'accord. Et vous, Monsieur Samber, quel est votre mot final? Quelles sont vos recommandations à l'endroit des personnes handicapées, ces personnes que vous soutenez?
Donc, merci. Donc, vraiment, en ce qui concerne le programme de réadaptation physique, il faut se dire que déjà au niveau du CICR, il y a ce qu'on appelle la réadaptation 2030.
Mm-hmm.
OK? Donc, là, il y a une vision qui est là. C'est cette vision qui veut que les personnes handicapées aient accès aux services. Et au niveau de la question de l'emploi également, le CICR se veut une institution qui emploie les personnes handicapées.
Mm-hmm.
Donc, je ne peux que exhorter ces associations des personnes handicapées à aller encore plus de l'avant avec le travail remarquable qu'elles sont en train de réaliser. Parce que c'est vraiment, ils ont un leadership qui leur permet vraiment d'avancer et d'amener vraiment les personnes handicapées à jouir pleinement de leurs droits. Et voilà ce que je peux ajouter.
Voilà, nous sommes au terme de notre débat. Merci, chers invités, de nous avoir honorés de votre présence. Merci, fidèles auditeurs, de nous avoir suivis. La technique a été assurée par Amina Hassan. Rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de nos médias partenaires pour un autre thème du Forum du Studio Kalangou. D'ici là, portez-vous bien et excellente soirée.